VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et à toutes. À ce micro, je suis Mohamed Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 3 février 2023. Il est 17h30 temps universel pour commencer le sommaire. Réunion demain samedi de la communauté des États d'Afrique de l'Est au Burundi sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le pape François est au Soudan du Sud pour une visite de 3 jours afin d'y promouvoir la paix et la réconciliation. Au Burkina Faso, le gouvernement annonce que les corps de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons seront enterrés sur le lieu de leur assassinat en 1987. Un engin volant suspecté d'être un ballon espion chinois a été détecté dans l'espace aérien des États-Unis. À suivre aussi les nouvelles économiques, au Togo, 21 milliards de francs CFA seront affectés à la couverture santé universelle en 2023 et les sports, finale demain du CHAN entre l'Algérie et le Sénégal. Pour commencer, le journal. Au Burkina Faso, les corps de l'ancien président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987 seront prochainement inhumés sur le lieu de leur mort à Ouagadougou, annonce faite ce vendredi par le porte-parole du gouvernement, le point avec Nani Talani.
Cette inhumation se déroulera courant février à Ouagadougou sur le site du mémorial Thomas Sankara, érigé sur le lieu de son assassinat, indique dans un communiqué le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication Jean-Emmanuel Ouédraogo. Il estime qu'après le procès de leurs assassins en 2021-2022, le père de la révolution burkinabé et ses compagnons de malheur devaient être inhumés de manière honorable. Enterré une première fois dans un cimetière en périphérie de Ouagadougou, leur corps avait été exhumé le 25 mai 2015 pour les besoins d'une procédure judiciaire. Leur nouvelle inhumation se fera selon les rites funéraires coutumiers, suivis de cérémonies religieuses et militaires, a-t-il poursuivi, précisant qu'une cérémonie nationale et internationale d'hommage aux victimes sera organisée le 15 mai 2023 pour honorer leur mémoire. Arrivé au pouvoir par un putsch en août 1983, Thomas Sankara, icône panafricaine, a été tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État fomenté par son numéro 2, Blaise Compaoré. Ce dernier est resté au pouvoir jusqu'à une insurrection populaire qui l'a conduit à sa chute en 2014.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré ce vendredi pour la première fois des chefs tigréens depuis un accord de paix signé en novembre, après un conflit sanglant ayant opposé le gouvernement fédéral aux rebelles de cette région du nord de l'Éthiopie, a annoncé un média d'État. Les deux parties ont évalué les actions menées jusqu'à présent sur la mise en œuvre des accords de paix de Pretoria et de Nairobi et ont discuté des questions qui nécessitent une plus grande attention, a indiqué l'Ethiopian Broadcasting Corporation. Au moins 21 personnes ont été tuées lors d'une attaque armée jeudi au Soudan du Sud à la veille de la visite du pape François dans ce pays déchiré par des années de conflit, ont annoncé les autorités locales. Des éleveurs armés ont tué 21 civils lors d'une attaque dans le comté de Kajokeji dans le sud du pays, ont indiqué jeudi dans un communiqué les responsables du comté, condamnant de la manière la plus forte possible l'attaque et le massacre de civils innocents dans un acte, je cite, de vengeance barbare. Le pape François est arrivé ce vendredi à Juba pour la première fois au Soudan du Sud. Il entend y promouvoir la paix et la réconciliation dans ce pays déchiré par la guerre civile et l'extrême pauvreté. Abdourahmane Dia.
Le pape, assis dans un fauteuil roulant, a été accueilli à 12h45 GMT après l'atterrissage de son avion à l'aéroport de Juba par un certain nombre de dignitaires, dont le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, un fervent catholique. Des milliers de personnes, certaines agitant des drapeaux, d'autres des branches de margousier, se sont réunies sur la route reliant l'aéroport de Juba et le centre-ville. Ce pèlerinage de paix, après une étape en République démocratique du Congo, est la toute première visite d'un pape au Soudan du Sud depuis que la nation à prédominance chrétienne a obtenu son indépendance du Soudan à majorité musulmane en 2011, après des décennies de conflits. La guerre civile qui a fait rage entre 2013 et 2018 a fait 380 000 morts et des millions de déplacés. À Juba, le pape sera accompagné des chefs des églises d'Angleterre et d'Écosse, représentants des deux autres confessions chrétiennes de ce pays de 12 millions d'habitants. L'Église joue un rôle de substitution dans des zones sans aucun service gouvernemental et où les humanitaires sont souvent attaqués, voire tués.
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, va participer demain samedi à Bujumbura à une réunion de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Cette communauté a déployé une force dans l'Est congolais, mais les rebelles du M23 continuent à gagner du terrain, Yakuba Ouedraogo.
Le président Félix Tshisekedi a été convié à cette réunion organisée par le Burundi qui préside actuellement la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est ce qu'a indiqué une source diplomatique. Cette rencontre est convoquée alors qu'une vive tension persiste entre la RDC et le Rwanda, accusés de soutenir et de combattre aux côtés du M23 ce que nie Kigali. À l'offensive depuis fin 2021, cette rébellion s'est emparée ces derniers mois de vastes pans de territoire au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées pour faire taire les armes et apaiser les tensions, mais des combats continuent d'opposer les rebelles du M23 aux forces loyalistes et à d'autres groupes armés dans l'est de la RDC. L'EAC a créé l'année dernière une force régionale devant comprendre des militaires kényans arrivés à Goma à partir de novembre dernier, ougandais, burundais et sud-soudanais. Sa mission, faire usage de la force contre les rebelles du M23 s'ils refusent de se retirer des zones occupées.
Au Kenya, trois policiers ont été condamnés ce vendredi à des peines allant de 24 ans de prison à la peine de mort, après avoir été reconnus coupables en juillet d'un triple meurtre avec torture, dont celui d'un avocat en 2016. L'avocat Willy Kimani, son client Josepha Mwenda et leur chauffeur de taxi Joseph Muiruri avaient disparu le 23 juin 2016 après une audience dans un tribunal de la banlieue de Nairobi. Leur corps mutilé avait été retrouvé une semaine plus tard dans une rivière au sud-est de la capitale. Les assassinats des trois hommes avaient suscité une vive émotion dans le pays et conduit le barreau kényan à décréter une grève des prétoires d'une semaine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a reporté ce vendredi une visite prévue à Pékin après la détection d'un ballon espion chinois présumé dans l'espace aérien des États-Unis. La Chine a exprimé ses regrets pour ce qu'elle qualifie d'intrusion involontaire. Nathalie Barge.
Il y a un ballon de surveillance chinois qui survole actuellement les États-Unis à haute altitude. C'est une violation claire et inacceptable de la souveraineté américaine, a déclaré un haut responsable du secrétariat d'État américain. Résultat, la visite d'Anthony Blinken à Pékin, prévue dimanche et lundi, est donc reportée et sera reprogrammée quand les conditions seront réunies, a-t-il ajouté, tout en se disant confiant dans la capacité des États-Unis à maintenir le dialogue avec Pékin. Le Pentagone avait annoncé hier avoir détecté un aérostat de grande taille au-dessus des États-Unis. Le ministère américain de la Défense avait assuré n'avoir aucun doute sur sa provenance chinoise et son usage à des fins d'espionnage. Pékin, qui avait d'abord appelé à ne pas monter en épingle cette affaire, a reconnu aujourd'hui qu'il s'agit d'un aéronef civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques. Le gouvernement canadien a aussi dit ce vendredi enquêter sur un deuxième incident potentiel.
Les États-Unis et les Philippines ont décidé de reconduire des patrouilles conjointes dans la mer de Chine méridionale afin de contrer la montée en puissance militaire de la Chine, selon un communiqué du ministère américain de la Défense. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, en visite à Manille, et son homologue philippin, Galvez, ont pris cette décision pour aider à relever les défis sécuritaires, est-il indiqué dans un communiqué publié jeudi. Les deux pays avaient suspendu leur patrouille maritime dans cette zone très contestée lorsque l'ex-président Rodrigo Duterte était au pouvoir. L'Union européenne a dit ce vendredi vouloir trouver une façon d'utiliser les avoirs russes gelés dans les pays occidentaux pour financer la reconstruction de l'Ukraine, une mesure réclamée par Kiev mais légalement compliquée à mettre en œuvre. L'UE intensifiera ses efforts en vue d'utiliser des avoirs gelés de la Russie pour soutenir la reconstruction de l'Ukraine et à des fins de réparation conformément aux droits européens et aux droits internationaux, ont indiqué dans un communiqué le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'issue d'un sommet à Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nathalie Barge.
Au Togo, 21 milliards de francs CFA seront affectés à la couverture santé universelle en 2023, soit 16% des ressources allouées au ministère de la Santé. Cette augmentation devrait permettre d'accélérer la mise en œuvre du projet d'assurance maladie universelle. L'Institut national d'assurance maladie va lancer l'assurance tontine, prévue pour les travailleuses du secteur informel. Le Togo et la Banque mondiale ont signé en 2021 un accord de plus de 38 milliards de francs CFA pour assurer la couverture santé des Togolais. Au Cameroun, Orange prévoit des investissements de 150 milliards de francs CFA sur 5 ans, à commencer par une enveloppe de 30 milliards cette année. Selon la société de téléphonie mobile, les investissements visent à sécuriser, étendre et moderniser l'infrastructure réseau en mettant l'accent sur la digitalisation et l'amélioration de la qualité. Orange a indiqué que ce plan d'investissement se base sur une importante croissance du trafic Internet de 40%. Le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, va se rendre prochainement au Mozambique pour évaluer les conditions de reprise des activités d'exploitation de gaz naturel au large du Cabo Delgado. Il doit s'entretenir avec le président Philippe Nyusi. Le géant français a suspendu son projet en 2021 après une attaque djihadiste dans le port de Palma. Un projet de l'américain ExxonMobil est également suspendu.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouidraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Demain se joue la finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2022.
Oui, le pays hôte, l'Algérie, affronte le Sénégal au stade Nelson Mandela d'Alger, coup d'envoi 19h30, temps universel. Les Lions de la Teranga locaux devront faire face aux Fenech locaux, mais aussi à leurs bouillants supporters. C'est ce que nous dit Soda Thiam, journaliste à la radio Activité Future Média, présentement sur place à Alger.
C'est une finale donc qui s'annonce palpitante. D'après donc le parcours des deux équipes, l'Algérie qui détient la meilleure attaque et la meilleure défense pour n'avoir encaissé aucun but. Du côté sénégalais aussi, on a vu qu'ils ont encaissé qu'un seul but, même si offensivement parlant, il reste beaucoup à faire. Et je pense qu'aussi les Lions doivent aborder ce match sereinement, avec détermination, ne pas suivre le jeu algérien. Et aussi je pense que le Sénégal, les Lions locaux ne doivent pas trop se focaliser sur les supporters algériens, parce que comme vous le savez, depuis le début donc de cette compétition, on a vu que beaucoup d'Algériens supportaient le Sénégal à chaque match donc du Sénégal. Aujourd'hui, ce sera le contraire. En tout cas, pour l'instant, on peut dire que ce sera du 50-50, 50-50.
Soda Thiam, journaliste à la radio Activité Future Média. Bien avant la finale de ce samedi, le match pour la troisième place oppose ce soir deux formations surprises de cette édition. Le Niger et Madagascar qui ont réussi à se hisser en demi-finale de CHAN pour la première fois de leur histoire. Les Malgaches jouent leur premier CHAN et les Nigériens sont à leur quatrième participation.
Au Maroc voisin, le mondial des clubs se poursuit demain samedi.
Après les Égyptiens d'Al-Ali qui ont dominé mercredi les Néo-Zélandais d'Auckland City, 3-0 en match d'ouverture, le deuxième représentant africain fait sa sortie ce samedi. Les hôtes marocains du Wydad Casablanca feront face aux Saoudiens d'Al-Hilal. Nous retrouvons à Casablanca notre correspondant Amine Birouk.
À quelques heures de leur entrée en lice dans le mondialito des clubs, les supporters du Wydad Casablanca naviguent entre certitude et doute. Des certitudes liées au potentiel d'un groupe qui a acquis lors de ces dernières saisons la culture de la gagne. Les doutes sont, eux, liés à l'instabilité sur le banc de touche avec l'arrivée il y a quelques semaines du coach tunisien Mehdi Nafti. Ce dernier a mis du temps à prendre ses repères, d'autant plus qu'il a quelque peu tâtonné dans le choix de son équipe type et dans le système de jeu le plus adéquat. Oscillant entre un 4-3-3 classique et un 3-5-2 plus expérimental, Nafti n'a toujours pas convaincu. En face, le Hilal champion d'Asie 2021 débarque au Maroc avec un groupe aguerri. Aux internationaux saoudiens qui ont joué le dernier mondial, l'entraîneur argentin Ramon Diaz peut ajouter des recrues étrangères de premier choix, genre Vieto ou le Nigérian Igalo ou encore le Malien Moussa Marega. Reste à savoir comment ces joueurs pourront tenir face à la pression que ne manquera pas de mettre en place le public Ouidadi. Un public qui a énormément contribué au sacre africain de la formation marocaine en mai 2022. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour la VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Le pape François est actuellement à Juba, au Soudan du Sud, après son voyage de 3 jours à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quel bilan peut-on faire de son voyage en RDC, où il a particulièrement plaidé pour la paix? Eddy Sangou a posé la question à Mwanda, dans le Congo central, à l'abbé Blaise Kanda, prêtre du diocèse de Mbujimayi, dans le Kasaï oriental.
Le bilan est largement positif dans un pays comme le nôtre qui a besoin du réconfort, du soutien du monde entier, de toute la communauté internationale. Quand le pape vient comme ça, ça attire le regard, les caméras du monde sur la RDC qui souffre depuis des décennies d'une agression étrangère. Et quand le pape vient et qu'il dit aux Occidentaux, retirez vos mains de la RDC, je crois que c'est un message très fort et à lui seul, il résume toute la quête, tout le combat de tous les Congolais.
Le pape ne s'est pas adressé qu'aux Occidentaux, il s'est adressé aux Congolais eux-mêmes, mais aussi aux Africains. Estimez-vous que son message est passé pour les pays et pour l'extérieur? Il a parlé d'agression, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, le message est passé. Mais pour nous, le plus fort, c'était ça, que le chef de l'Église catholique vienne chez nous et qu'il attire l'attention du monde sur notre situation, qui ne préoccupe pas beaucoup de gens. Les autres problèmes sont internes. Nous en parlons déjà nous-mêmes comme Congolais. Nous avons plus conscience quand il parle de la corruption. Ce sont des choses, des thèmes récurrents dont nous parlons souvent. Parler des élections, de la tribalisme, ce sont des thèmes que nous abordons. Mais notre problème, c'est que nous sommes tués chaque jour ici. Le monde n'en parle pas. Le monde n'en parle pas. Ce n'est pas un problème. Il y a la guerre en Ukraine. On en parle à toutes têtes, sur toutes les chaînes. On ne parle pas de ce génocide, de ce meurtre dont sont victimes les Congolais. Que le pape soit venu, pour nous, nous trouvons que c'est ça, pour nous, le message le plus important. Les restes des choses, nous en parlons nous-mêmes. Nous en parlons chaque jour, les Congolais. Mais c'est vrai que quand le pape le dit, ça tourne autrement.
Mais maintenant, estimez-vous que les choses vont changer dans le pays après le passage du pape en République démocratique du Congo, et dans quel sens?
Bon, comme chrétien, j'ai l'espoir. Je crois que lorsqu'un homme de Dieu passe comme ça, il laisse certainement des traces, il laisse des grâces et des traces. Mais la balle est dans le camp de tout le monde. C'est la parole d'un pape, une personnalité religieuse. Qu'elle nous interpelle, que les Congolais changent ce qu'ils doivent changer et que le monde change ce qu'il doit changer, que chacun se sente interpellé et que chacun soit le changement que nous tous nous souhaitons.
Pendant que les papes étaient là, il y a eu des tueries, notamment avec les ADF du côté des Irumou, du côté des Béni, du côté des Lituri aussi, mais aussi la guerre a semblé reprendre. Certains se posent des questions. Est-ce que vous pensez que les ADF, les M23 et les autres, même le Rwanda, ont entendu les messages du pape?
Bon, le pape parle, nous tous nous parlons, mais il y a des décisions à prendre. Il y a au niveau des grandes nations les décisions qu'ils doivent prendre. Si on continue à soutenir, par exemple, le Rwanda, si clairement on ne condamne pas le Rwanda, si on n'agit pas dans ce sens-là, comment que les choses vont changer? Si les Congolais sont convaincus qu'il y a comme un plan mondial de balkanisation de notre pays, comment les choses vont changer? Le pape a parlé. Il faut que dans les chancelleries, dans les différents gouvernements du monde, qu'il y ait aussi des décisions qui doivent être prises dans le sens du bien-être de tous les Congolais. Les Congolais aussi, dans cette guerre, nous avons aussi notre part de responsabilité. C'est à nous de comprendre et prendre au sérieux la parole du pape, parce que parmi les belligérants, certainement, il y a des catholiques.
C'était l'abbé Blaise Kanda, prêtre du diocèse de Mbujimayi depuis Mwanda, d'où il répondait à VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 87.2 FM.
Toujours en République démocratique du Congo, Bernadette Tokwaoulou est la première femme à avoir annoncé sa candidature à la présidentielle prévue en décembre. Ancien membre de l'AMP sous Joseph Kabila, elle s'était opposée à la révision de la Constitution dès 2014. Dans cet entretien avec Nathalie Barge, elle explique pourquoi elle fait appel aux femmes pour le prochain scrutin présidentiel.
Je fais appel aux femmes parce que les femmes sont les premières victimes de la guerre. Souvent, on me critique parce que je suis une mère célibataire. Alors, je veux rappeler que ce sont les femmes dans notre pays de misère qui permettent à la population, à leur famille de survivre. Je veux rappeler que toutes les femmes de l'Est qui ont subi des viols et qui sont stigmatisées sont maintenant des mères célibataires forcées. Elles ont donné naissance aux enfants des viols, aux enfants de la guerre. Il n'y a pas que la guerre. Nos enfants n'étudient plus. Les enfants à l'Est n'étudient plus. Il y a deux générations qui n'ont pas fait d'études. À l'Ouest, au Sud, au Nord, les enfants font des études au rabais. Vous avez des bourgmestres, des ministres, des PDG qui ne savent même pas s'exprimer en français. Si à ce niveau, ils ne savent pas s'exprimer, ça veut dire que notre éducation nationale est en faillite complète.
Si vous étiez à la tête de la République démocratique du Congo, comment est-ce que vous procéderiez pour faire cesser la violence armée dans l'est du pays?
Je veux que l'État congolais soit un État militaire, avec des casernes à toutes nos frontières. Nous en avons 9, avec des villes casernes à toutes nos frontières. Comme aux États-Unis, des casernes où les soldats sont bien traités, avec des écoles, avec des hôpitaux, avec des supermarchés, avec tout le confort social possible pour que notre pays devienne un État militaire. La priorité numéro un, c'est la défense nationale, la souveraineté nationale.
Comment allez-vous procéder pour faire votre campagne, notamment pour la financer?
Des femmes se sont mobilisées aux quatre coins du pays pour organiser ma campagne. Je leur en suis reconnaissante. Nous devons maintenant faire une coordination. Le premier objectif, ce sera de rassembler un maximum de femmes et aussi d'hommes. Donc, nous faisons des coordinations à tous les niveaux du pays. Le premier objectif sera de pouvoir établir nos bureaux et de récolter les fonds pour payer cette caution de 100 000 dollars.
En tant que candidate à la présidentielle, vous allez être confrontée à des grandes figures de la politique aussi, comme Moïse Katumbi, le président Félix Tshisekedi lui-même et d'autres. Comment comptez-vous faire la différence? Parce que là, il faut avoir une base électorale. Qu'est-ce que vous allez faire exactement pour pouvoir faire connaître votre nom dans l'ensemble du pays?
La population me connaît. Les dirigeants que vous citez me connaissent très bien. Ils savent quelle est ma détermination, ils savent quelles sont mes capacités. Maintenant, nous devons affronter une campagne électorale. Notre plus grande difficulté est de circuler dans tout le pays. C'est un énorme défi.
Bernadette Tokouolou, candidate déclarée à la présidentielle de 2023 en RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les Congolais qui vivent au Rwanda comme citoyens ordinaires se félicitent de leur intégration dans la société rwandaise malgré la tension persistante entre leur pays et le Rwanda. Ils souhaitent tout de même que les relations entre les deux pays se normalisent. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe nous en dit davantage.
Avant la détérioration des relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de citoyens congolais et rwandais traversaient chaque jour la frontière reliant la ville de Gisenyi côté rwandais et Goma côté congolais. Aujourd'hui, le trafic a sensiblement baissé et vers la soirée, les gens se précipitent pour regagner leur pays respectif car côté congolais, la frontière se ferme à 15h locale. Les Congolais qui travaillent au Rwanda jusqu'à 17h ne peuvent plus rentrer chez eux à Goma comme le docteur Kaposo Pascal, engagé comme médecin à l'hôpital de Gisenyi au Rwanda.
Lorsque cette mesure-là nous met en difficulté, parce qu'on a des difficultés à visiter nos familles, même après les heures de service, on est supposé rester ici à Gisenyi. Alors qu'avant, même à 17h après les services, on pouvait faire un petit soir à Goma, passer une heure en famille et revenir le matin pour les services. Et là, ça nous arrange.
Plus loin de Gisenyi, Gentil Emery, lui travaille dans un salon de coiffure qu'il a initié à Kigali. Même s'il n'est pas directement affecté par les relations entre son pays et le Rwanda, il sait tout de même voir la situation s'améliorer. Que Dieu nous aide pour que cette crise qui s'enlise prenne fin. Sinon, nous sommes en paix au Rwanda. Ce feu est partagé par Peter Bokanga, un autre Congolais qui a lui fondé une école primaire à Kigali où il s'est installé depuis 2006.
Nous sommes les voisins et nous resterons toujours. Le Rwanda ne va pas changer ses frontières, tout de même le Congo ne changera pas ses frontières. Donc c'est au niveau des autorités de voir comment je trouver la solution la plus vite possible.
Le docteur Awaz Raymond est président de la diaspora congolaise au Rwanda. Pendant 20 ans environ, il travaille comme médecin. Maintenant, il a une clinique privée. Il affirme que ses compatriotes sont bien intégrés au Rwanda. Cependant, il a une demande à adresser aux autorités des deux pays.
Toute cette escalade qu'il y a là, c'est en défaveur des deux peuples. Et je crois que les deux gouvernements continuent toujours à travailler. Parce qu'il y a toujours lueur d'espoir. Aussi longtemps que nos ambassades ne sont pas encore fermées, cela veut dire qu'il y a encore des brèches par lesquelles nous pouvons quitter cette situation. Et là, j'interpelle encore nos gouvernements. J'interpelle ceux qui nous gouvernent, qu'ils voient beaucoup plus l'intérêt de nos peuples.
D'après la direction de la diaspora congolaise au Rwanda, entre 50 et 60 000 Congolais vivent au Rwanda comme citoyens ordinaires, en plus d'environ 80 000 réfugiés congolais hébergés par le Rwanda il y a plus d'une vingtaine d'années. Jean Damascène Manichiné pour VOAfrique, Kigali.
Au Niger, faute d'une présence des représentants de l'État dans certaines régions reculées ou d'une méconnaissance de la loi, 4 enfants sur 10 ne sont pas inscrits à leur naissance à l'état civil dans ce pays où la moitié de la population a moins de 15 ans. Nani Talani nous en dit plus.
Après avoir fui les attaques djihadistes, Aïchata Hassan ne pensait pas devoir faire face à pareil défi. Prouver au monde que sa fille de 12 ans, Nadia, existe administrativement pour qu'elle puisse aller à l'école au Niger. Nadia Salou, tout comme sa sœur Zeneba, 9 ans, et le petit Abdul Karim, 4 ans, sont parmi ces enfants nigériens qui n'existent que par leur prénom. Leur maman Aïchata Hassan, originaire du petit village rural d'Alzou, dans une zone reculée de la région de Tillabéri, dans l'ouest, a accouché à domicile et aucun agent de l'État n'a pu inscrire leur naissance au registre. Elle disposait de 60 jours pour aller déclarer chaque enfant, mais ses faibles revenus, la distance de la ville et les coûts de transport l'en ont dissuadée. Et surtout au village, ce bout de papier, l'acte de naissance, ne sert pas à grand-chose, dit-elle. Et des années ont passé. Nadia, Zeneba et Abdul Karim ont été inscrits à l'école. Mais au moment d'inscrire Nadia à l'examen d'entrée en 6e, Aïchata a déchanté. Sans acte de naissance, pas d'inscription possible. Beaucoup d'enfants de l'école sont dans cette situation, dit le conseiller pédagogique Idrissa Iliassou, qui a 30 ans dans l'enseignement rural au compteur.
Presque beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants n'ont pas de cette naissance. Il faut aller à l'examen. Et à l'examen, nous ne pouvons pas les faire partir dans notre cycle sans avoir état civil qui l'identifie.
Selon Ibrahim Malangoni, directeur national de l'état civil au Niger, le manque d'actes de naissance s'explique par le fait que pour les populations nigériennes, l'inscription sur les registres de naissance n'est pas encore entrée dans les habitudes, surtout en milieu rural.
Ils ne sont pas encore dans la logique de systématiser l'enregistrement dès que les faits d'état civil surviennent dans leur famille. Et elles attendent toujours qu'il y ait le besoin, par exemple, qu'il y ait le besoin pour l'école, je ne sais pas, pour la justice, pour bénéficier d'une bourse, pour aller ouvrir un compte à la banque, etc. Et donc c'est en ce moment que les gens se rendent compte qu'il faut le faire, l'acte d'état civil, alors qu'il fallait le faire plus tôt et c'était gratuit.
Ibrahim Malangoni pointe aussi du doigt une culture axée sur le papier qui, selon lui, est dépassée car il faut passer à l'informatisation. Aujourd'hui, le taux d'enregistrement des enfants à la naissance dans les délais est de 60%.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va Le Monde aujourd'hui. Plus d'informations 24 heures sur 24, c'est sur notre site internet www.voafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes numériques Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.